Le café numérique des arts, lettres et sciences humaines, Université Laval, Québec. Rencontre du 22 septembre 2011. La rencontre est consacrée à une présentation de Mathieu Rochelot, survol de l'emploi de la 3D en sciences historiques, exemple de l'apport de la technologie aux sciences humaines.
Merci à René d'organiser ces rencontres. Je suis doctorant en histoire au département ici, en histoire Laval et aussi en Côte-du-Tel avec Bordeaux 3. Et je travaille sur l'emploi, la 3D pour faire de la recherche, mais je vais plutôt faire un survol de l'emploi possible, autant pour faire de la diffusion, les enjeux, etc., avec de nombreux acteurs. En fait, je suis content aussi de commencer cette série-là, si on réussit à faire plusieurs rencontres avec la 3D, parce que je trouve que c'est souvent un sujet qui est laissé pour compte dans les Digital Humanities ou Humanité numérique ou peu importe le terme qu'on emploie pour aborder ce champ émergent. On pourra sûrement discuter de quel titre ou de quelles définitions de Digital Humanities et tout ça. Et en fait, la 3D est à mon avis un domaine riche en applications et aux possibilités multiples, auxquelles je vais consacrer les prochaines minutes à démontrer la pertinence pour les chercheurs en sciences historiques. L'évolution des approches, les échanges d'applications et les enjeux qui préoccupent les acteurs. Alors, commençons par faire un bref survol des origines de la 3D en sciences historiques et de son évolution. La première évocation de l'idée d'employer la puissance des ordinateurs pour numériser en 3D des monuments anciens faite en 1973 par J.D. Whitcock au congrès Computer Application in Archaeology. C'est le congrès qui aborde le plus directement la modélisation 3D en archéologie aujourd'hui. Et Wilcock en fait allusion en tentant de prédire quels pourraient être les champs d'application de l'informatique appliquée à l'archéologie dans le futur. Et la modélisation 3D fait partie du dernier groupe avec d'autres éléments. Donc, il n'accorde pas une très grande importance, mais néanmoins, c'est la première mention. Il a fallu attendre plus d'une dizaine d'années pour voir des premières applications concrètes. Ce sont les Français qui ont commencé à utiliser ces technologies dès 1985 à Carnac pour les aider à comprendre l'évolution du architectural de ce majestueux temple égyptien, aussi pour tenter d'analyser et de remettre en ordre les constructions composées de milliers de talatates laissées par le pharaon Akhenaton, qui ont été démantelées par ses successeurs. Donc, il y avait environ 400 000 blocs de cette grosseur-là avec des décorations dessus. Donc, ça faisait un gigantesque puzzle à remonter. Et l'informatique a aidé à remonter ça. Et le travail s'est fait avec le concours d'EDF, donc Électricité de France, notre Hydro-Québec, en fait, leur Hydro-Québec, qui fournissait les technologies et l'expertise. En même temps, du côté de l'Angleterre, il y a un autre groupe de recherche universitaire qui s'intéresse à ces applications, cette fois avec le concours d'IBM. Et les deux groupes commencent à publier leurs résultats dans les années 80. À la fin des années 80, c'est à l'anglais Paul Riley que revient le crédit d'avoir marqué l'imagination grâce à l'introduction du terme « Virtual Archaeology » en 1991, au congrès de 90, publié en 91, et qui est depuis employé à toutes les sources et cité dans toutes les publications sur le sujet. Donc, dans le domaine de la 3D en sciences humaines, ce sont les deux premiers exemples de transfert technologique de l'industrie vers la recherche universitaire et qui a permis une certaine démocratisation de la technologie 3D. Donc, il y avait deux clans, les Français avec EDF et les Anglais avec IBM. Et ce qui est intéressant de remarquer, bien, c'est la présence d'une compagnie privée dans les deux cas, parce qu'il fallait évidemment beaucoup d'expertise et de moyens financiers pour en arriver à faire des modélisations 3D dans les années 80. C'est donc une voie incontournable pour ses tout débuts. Ça l'est encore quelques années plus tard, en 97, lors de la sortie de la première monographie consacrée à ce champ de recherche. Et ce livre de Forte et Cigliotti, qui en fait le troisième incontournable pour toute revue de littérature, porte en lui une marque profonde qui lui est encore reprochée, un peu à tort à mon avis, il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque, c'est que la grande majorité des modèles présentés dans ce livre ont été créés par des boîtes privées, et donc, corollaire de cette situation, les modèles ne servaient principalement qu'à des fins d'illustration. Donc, c'est pas si grave que cela en soi. Il faut bien un début de toute façon. Alors, pourquoi ce reproche? C'est que la publication marque le début d'une tendance lourde qui détourne en quelque sorte l'emploi initial du terme tel que l'avait envisagé Riley. alors qu'il voyait surtout l'archéologie virtuelle ou la modélisation 3D comme un atout supplémentaire pour faire des investigations archéologiques, son emploi à partir de cette publication-là tend de plus en plus à se confondre avec un autre terme qui est « virtual heritage », qui est difficilement traduisible en français en un mot, mais qu'on pourrait comprendre comme la recréation du patrimoine ou du passé sous une forme virtuelle pour sa diffusion, sa mise en valeur ou sa préservation. On peut le voir sur cette affiche espagnole d'un cours d'été de l'année passée, un cours international d'archéologie virtuelle, alors que la description fait plutôt état de l'application des technologies pour la présentation du patrimoine archéologique. Donc le terme « virtual archaeology » n'est devenu qu'une simple expression pour parler des restitutions virtuelles du passé, alors que l'archéologie est beaucoup plus que cela. Elle ne fait pas que décrire à quoi ressemble le passé, elle tente aussi de l'expliquer, de comprendre le processus à l'origine des résultats observés dans les fouilles archéologiques et donc ayant mené à l'existence de telle ou telle culture matérielle. C'est ce qui ressort d'une analyse de l'emploi du terme par les spécialistes du domaine, aussi une enquête de public dans un musée d'une exposition virtuelle. Virtual archaeology est devenu complètement autre chose que ce que Riley avait envisagé au départ, avec des préoccupations beaucoup plus loin de la recherche, qui plus est s'en tenant une définition très limitée de l'archéologie. Elle aurait donc renforcé le concept traditionnel de l'archéologie au lieu de la transformer, donc renforcer son aspect descriptif au détriment de celui plus explicatif des processus. Si on revient au livre de Forte, puisqu'on y retrouve beaucoup d'illustrations, la plupart du temps sans explication, donc qui laissent sous-entendre une finalité du résultat, qui est non discutable et qui d'autant plus a été réalisé par des firmes privées, il est facile de comprendre que plusieurs chercheurs ont cru à n'ont pas pris l'opération au sérieux et ont craint pour une certaine disneyfication de l'histoire, en même temps que Virtual Archaeology se soit fondu avec le Virtual Heritage un peu. Ainsi, la recherche est vite devenue le laisser pour compte de cette archéologie virtuelle, et encore aujourd'hui, les chercheurs qui emploient ces technologies doivent perpétuellement démontrer la pertinence d'employer la 3D comme méthode de recherche sérieuse ou scientifique, et que cette approche peut réellement faire progresser les connaissances. C'est un peu ce à quoi je vais aussi m'employer aujourd'hui. Bon, depuis la publication de Forte et Ciliati, il y a beaucoup de choses qui ont bien changé. J'ai pas besoin de revenir sur le fait que le coût pour le matériel informatique a drastiquement chuté, comme sur le fait que les technologies sont beaucoup plus faciles d'utilisation, plus accessibles à des chercheurs qui ne sont pas formés a priori pour modéliser en 3D. Et bref, aujourd'hui, c'est très à la mode et employé massivement par différents acteurs ayant des objectifs tout aussi variés. Avant de se concentrer sur la situation actuelle et de démontrer comment la 3D peut être employée, je crois que je me dois de faire une clarification, du moins de définir deux termes, soit modélisation et numérisation. Pour que vous compreniez bien de quoi je parle et surtout de quoi je ne parle pas. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la modélisation de tout type de données, textuelles, iconographiques, etc., en trois dimensions, et la restitution probable ou possible de ce que ces données peuvent fournir. Donc, la restitution de l'invisible ou de l'inconnu, en quelque sorte. Et ce travail implique une méthodologie particulière et une réflexion propre aux chercheurs en sciences humaines. Vous remarquerez, par exemple, que j'emploie toujours le mot « restitution » et non « reconstruction », parce que ce dernier implique une certaine finalité du résultat, l'idée qu'il est possible de reconstruire à l'identique le passé, avec toute la certitude que cela implique et qui ne correspond en aucun cas avec la réalité du chercheur en sciences humaines. La numérisation ou l'acquisition est plus, à mon avis, une étape technique, pas de moindre importance, mais simplement différente dans sa nature. L'objectif, dans ce cas précis, est plutôt d'acquérir l'existant des ruines, des objets, de manière la plus efficace possible, qui permette un emploi du scan ou le nuage de points, qui est le résultat du scan, de façon à rencontrer les objectifs de l'opération. Donc, est-ce pour la préservation, pour la diffusion des résultats sur Internet, le partage, les simulations, l'étude, etc. Dépendamment de ces objectifs, la numérisation pourra être différente. Et dans tous les cas, elle doit se faire de concert avec l'équipe qui exploitera le modèle par la suite. Cela dit, les deux types de modèles ont leurs caractéristiques propres et peuvent fournir des apports importants aux chercheurs, par exemple la numérisation pour la préservation du patrimoine, Et tandis que la modélisation de monuments disparus ou en très mauvais état de conservation peut être très utile dans un objectif d'un point de vue plus pédagogique. Sans oublier évidemment que les deux méthodes sont employées évidemment de concert la plupart du temps. Le scanner permettant d'acquérir ou numériser les vestiges restants. Donc, on peut numériser les vestiges restants et on va modéliser le reste par-dessus avec une transparence pour en fait démontrer la distinction entre les deux cas. Un est assuré que l'autre ne l'est pas. Et lorsqu'utilisé judicieusement avec le web, cette double approche peut fournir des applications très intéressantes pour diffuser le contenu historique. Un exemple seulement, c'est le projet de Digital Karnak, qui est un projet créé par deux chercheurs universitaires de UCLA. Et leur site web permet d'explorer ce gigantesque temple de multiples façons. Donc, il y a un modèle 3D du temple qui a été réalisé qui permet aux utilisateurs de voir comment le temple a été construit et modifié au fil du temps, soit sur une carte Google Maps, ou soit directement dans Google Earth, où on peut le parcourir, qui est un mélange de numérisation et de modélisation. Donc, on n'entrera pas dans tous les détails de toutes ces possibilités web et autres, ça serait beaucoup trop long. Donc, l'exemple de Digital Karnak fournit un exemple de la puissance des outils techno pour diffuser un contenu historique tridimensionnel. Mais toutefois, la diffusion du contenu ne devrait pas être la finalité du processus, seulement une des nombreuses possibilités. Donc, tournons-nous plutôt vers l'intérêt qui réside à modéliser ces données pour faire de la recherche. Donc, tentons de revenir à la conception initiale de Virtual Archaeology, telle qu'envisagée par Riley, qu'on soit d'accord ou non avec l'existence même du terme. Et on va s'éloigner un peu du Virtual Heritage. On va pouvoir revenir sur ces exemples-là si ça vous intéresse plus tard. Donc, quels sont les avantages ou les raisons pour lesquelles le chercheur voudrait modéliser ces données en trois dimensions? Donc, il existe plusieurs applications possibles, différents niveaux d'emploi représentant chacun un niveau d'engagement ou de complexité variable. Le premier rapport, c'est certainement le plus évident, c'est un peu ce qu'on a vu aussi, c'est qu'elle facilite la compréhension par la présentation d'informations à propos de la constitution d'un monument, d'une ville, à un moment précis dans le temps, dans une forme qui est beaucoup plus intuitive que le texte, le plan ou l'élévation. On parle plus ici, dans ce cas, d'une opération de visualisation de données, en suivant la définition traditionnelle du terme, qui est le fait de rendre visible quelque chose qui normalement n'est pas visible. Ce qui permet d'avoir une image mentale, la représentation de quelque chose et de pouvoir l'analyser plus en profondeur. Comme par exemple ce petit campement d'Amérindiens de Pastaeg en Virginie qui a été détruit en 1610 et qui a été restitué virtuellement dans les dernières années. Donc on peut parcourir, certainement mieux comprendre l'organisation de ce site de façon plus éclairée que par un compte rendu écrit, surtout quand aucune représentation figurée n'existe pour faire un parallèle. En ce sens, la visualisation 3D est un excellent moyen de diffuser l'histoire et c'est ce qui pourrait correspondre à la vision plus traditionnelle de l'archéologie qui ne fait que décrire le passé au lieu de l'expliquer, qui voit la 3D comme un moyen d'illustrer ce passé. Dans un deuxième temps, en organisant les données disponibles dans un modèle 3D pour les visualiser, ça permet aussi de juger de la qualité et de la quantité des données disponibles pour en quelque sorte juger de l'avancement des connaissances à propos d'une ville, d'un bâtiment ou d'un objet. Autrement dit, le modèle 3D peut tenir lieu de résumé sur la connaissance d'un sujet. C'est l'objectif, ou en fait un des objectifs du projet Run Reborn qui modélise ou en fait qui restitue la ville en 320 après Jésus-Christ et qui est accessible sur Google Earth. C'est aussi l'objectif un peu de Digital Karnak de réunir l'ensemble de la documentation et l'organiser pour mieux la comprendre et l'analyser. Donc, ils veulent aussi se servir du modèle 3D comme aide-mémoire et visualiser au fur et à mesure les hypothèses et les réflexions qui animent les différents chercheurs. Un autre exemple d'organisation des sources qui permet une meilleure compréhension, c'est le projet 3D de restitution de l'usine Renault, d'une usine Renault, en fait, qui date de 1920. C'est que l'organisation et les croisements des sources, dans ce cas-ci, c'était majoritairement iconographique, il y avait très peu de texte, laissait des zones d'ombre par rapport à l'organisation du travail sur la chaîne de montage. Donc, à partir d'un reportage photographique de 22 photos et un article aussi de journal qui contenait 12 dessins, les chercheurs ont entrepris de modéliser l'organisation du travail et de la chaîne d'assemblage et ça a permis de constater des faits inconnus par rapport à l'organisation du travail, à savoir que les opérations 7 et 8 étaient réalisées au même poste de travail, contrairement à ce qui était expliqué dans le texte de journal, et que l'ensemble du travail se faisait à l'aide de 13 opérations au lieu de 12. Donc, c'est à force de modéliser les données, de voir qu'il y a des choses qui tiennent pas la route avec en suivant seulement les photos et le texte. Troisièmement, en fait, la modélisation peut mettre en évidence des caractéristiques ou des propriétés non attendues ou non anticipées lors de l'élaboration d'un projet. En d'autres mots, on va créer un modèle 3D pour une raison précise et on va remarquer quelque chose d'autre qui n'a pas été envisagé. Un rapide exemple de cela est le projet anglais Theatrin, dont l'objectif était de restituer virtuellement plusieurs théâtres à différentes époques pour analyser le jeu des acteurs, l'agencement de l'espace, etc. Et un aspect fortuit qui est apparu de façon fortuite concerne l'Odéon Périclès à Athènes, qui pouvait contenir 3000 personnes, et dans lequel le nombre élevé de colonnes pour supporter l'édifice, il y en avait 81, donc 9 rangées de 9 colonnes, de même que leur disposition empêchait plus de 40% des gens d'apercevoir la scène à l'avant. Pour avoir la meilleure vue possible sur la scène, en se déplaçant dans le modèle virtuel, il fallait se placer sur les poutres du plafond. Les chercheurs ont donc émis comme hypothèse pour les Grecs de l'époque qui l'ont construit. Donc, au lieu de tenter de fournir la meilleure expérience possible du jeu qui se faisait sur la scène aux spectateurs présents, ils ont voulu mettre l'emphase sur le spectacle et l'admiration que pouvait susciter l'édifice en lui-même. Et l'interprétation renforce aussi une vieille hypothèse qui a été faite dans les années 50 à propos de l'Odéon, que ce dernier pourrait être une reconstruction en dur, donc une reconstruction en pierre qui a été faite à l'époque de Périclès, qui reprenait la tente d'un général perse qui avait été capturé durant les guerres médiques, qui avait été remonté sur l'Agora et le présenter comme butin de guerre. Et l'Odéon serait une reconstruction en dur de cette tente-là. Donc tout ça peut porter aussi les chercheurs à fouiller d'autres domaines avec le modèle, comme l'impact sonore, l'ambiance, l'éclairage. Et des aspects qui sont moins étudiés, mais qui avaient peut-être plus d'importance pour les spectateurs qui étaient présents, qui étaient peut-être plus recherchés par les Grecs à l'époque. Donc l'idée à retenir, c'est que sans la modélisation 3D, les chercheurs n'auraient pu avoir cette donnée pour amorcer cette réflexion et revoir les interprétations qui avaient été faites. Donc ça, c'est une série d'apports qui résultent du processus de modélisation 3D de différents types de données. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que la virtualisation de l'environnement historique peut aussi apporter beaucoup plus du point de vue scientifique et servir de catalyseur de connaissances. Et pour arriver à ces apports, il faut des modèles 3D qu'on puisse qualifier de scientifiques, donc des modèles qui soient le plus juste possible et qui répondent à certains standards de qualité qui sont reconnus dans le milieu au sein duquel il va être exploité. Donc, qu'est-ce qu'un modèle scientifique? C'est très simple, c'est simplement un modèle qui présente une crédibilité historique. Il s'agit ni plus ni moins que de permettre à autrui de bien comprendre le raisonnement du chercheur qui l'a créé, donc à partir de quoi il l'a créé et comment il l'a réalisé. Donc l'objectif, c'est de rendre le processus de création 3D transparent, ce qui n'est pas si courant que ça, via ce qu'on appelle les métadonnées et les paradonnées, en documentant à partir de quelle source le modèle 3D a été créé et expliquant les choix d'interprétation qui ont été faits. Donc, les métadonnées, c'est les données à propos des données, comme les données EXIF d'un fichier JPEG, d'une caméra numérique qui donne l'ouverture, la vitesse et tout ça. Et les paradonnées, c'est les données qui expliquent le processus de création, donc qui permettent de suivre le raisonnement du créateur. Donc, pourquoi il a placé tel élément à tel endroit, pourquoi c'est rouge, pourquoi c'est pas telle couleur, pourquoi c'est telle texture, etc. Donc, en ce sens, les métadonnées et paradonnées peuvent être comparées à la parade critique d'un texte, où les sources sont citées, la méthodologie expliquée, les données brutes disponibles en annexe, etc. Et en expliquant les choix, il est aussi possible de montrer visuellement plusieurs alternatives de restitution, que deux options sont envisageables, que le modèle, somme toute, n'est qu'une représentation, une interprétation, que rien n'est fixé définitivement. C'est aussi, à bien y penser, une façon de démontrer l'incertitude de la démarche de création virtuelle et une forme d'honnêteté intellectuelle. Donc, par exemple, l'exemple d'un village amérindien de Nodena, une restitution virtuelle, le village est situé dans la vallée du Mississippi, et le modèle a été réalisé par l'Université d'Arkansas, et on peut voir deux restitutions différentes, une avec palissade à droite, ici est à l'arrière, et une sans palissade à gauche. En fait, les sources archéologiques n'ont pas encore mis à jour les traces d'une telle palissade, alors que les sources écrites les présentent à la fois avec et sans palissade. Et le site Internet explique les choix qui ont été faits en fonction des sources disponibles, et ce qui est un exemple de transparence qu'on rencontre très rarement encore aujourd'hui. Et ce sont aussi des enjeux qui dépendent en grande partie des avancées technologiques. Donc, comment représenter graphiquement ou de manière ergonomique l'incertitude ou le degré d'authenticité d'une structure. Donc, c'est un sujet récurrent depuis une dizaine d'années dans le domaine. Et un trop grand réalisme en ce sens peut causer plus de tort que de bien un modèle scientifique destiné à la communauté universitaire. Au-delà de ces enjeux d'ordre méthodologique, une fois ces technicités surmontées, il est possible de nous diriger de plus en plus vers une utilisation heuristique des modèles 3D, donc qui contribuent à la découverte, c'est-à-dire des modèles qui contribuent à faire de nouvelles découvertes autres que ce que le modèle offre en soi en tant que représentation visuelle ou méthode pour organiser ses sources premières. Par sa constitution scientifique, il peut devenir un objet d'étude en lui-même, une source d'histoire comme n'importe quelle autre source historique pour laquelle, chose importante, il est possible de juger de sa fiabilité s'il respecte les normes de transparence. Comment on peut faire des découvertes avec un tel objet? C'est avec les simulations. Les simulations dans un environnement virtuel 3D scientifique permettent en quelque sorte de faire des voyages dans le temps et de faire des études empiriques fondées sur l'expérience et l'observation à propos de quelque chose, la plupart du temps un bâtiment, qui n'existe plus, d'analyser son fonctionnement un peu comme les physiciens le font avec d'autres types de modèles physiques, comme pour calculer la résistance d'une structure à la houle, au vent, de calculer l'énergie dégagée par un corps, etc. Et en bout de ligne, ce genre de simulation permet à quiconque s'intéresse à l'histoire de mieux comprendre les sociétés humaines en recréant ce qu'ils ont vécu dans ces environnements virtuels, ce qui est le travail de tout chercheur en sciences historiques. Un bon exemple de cela est la restitution virtuelle du Circus Maximus de Rome, où avaient lieu les courses de chars, où, après 8 ans de travail en séminaire, plusieurs experts de l'Université de Bordeaux, qui provenaient de divers horizons, ingénieurs, architectes, historiens, archéologues, etc., le projet en est arrivé à un modèle scientifiquement valable aux yeux de tous. Et les chercheurs se sont rendus compte en cours de route que plus ils se rapprochaient d'un modèle scientifique, plus il était possible de mieux comprendre le déroulement d'une course en étudiant la position de l'empereur ou des juges dans le cirque, par exemple. Il devenait aussi possible de faire des simulations sonores réalistes à partir de l'endroit où se trouvait l'empereur, au point où il est maintenant possible d'affirmer que l'empereur pouvait communiquer avec le vainqueur à la fin d'une course, même sans porte-voix, s'il haussait suffisamment le ton. Donc, ils ne peuvent assurer qu'il le faisait, mais c'est maintenant néanmoins possible de le faire. Donc voilà un exemple concret de la part d'un modèle scientifique et qui ouvre la porte à de nouvelles études ou hypothèses de travail. Les modèles 3D ne sont donc pas qu'une aide à la restitution ou un résumé de la connaissance d'un bâtiment ou d'une ville, ils sont aussi des outils qui permettent de faire des nouvelles découvertes. Évidemment, c'est pas parce que le résultat va provenir d'une modélisation 3D qu'il faut tenir pour acquis ou qu'il va être plus véridique avec une autre méthode. Ça doit être soumis à la discussion entre les pairs. C'est pourquoi la transparence est si importante. De nouvelles technologies, comme de nouveaux algorithmes pour faire des simulations, pourront contredire les interprétations qui sont mises de l'avant aujourd'hui. Il est aussi important de conduire ces recherches de manière tout aussi rigoureuse que dans des recherches plus traditionnelles. Il existe en effet un niveau de détail pour la modélisation 3D en dessous duquel il est impossible de satisfaire les exigences scientifiques pour l'étude des sociétés du passé. Donc, on peut retourner à l'exemple de Carnac. Il y a des chercheurs français et anglais qui sont regroupés autour du projet Atom 3D qui se sont attaqués à la restitution d'une même partie que le groupe Digital Carnac a fait. Donc, à partir des mêmes sources, ils en sont arrivés à un résultat complètement différent. Au moins, mais puisque le processus était transparent, en fait que tout le monde savait à partir de quelle source les restitutions avaient été effectuées, un dialogue a pu s'instaurer, chacun pouvant expliquer à coup d'article les raisons les ayant amenés à proposer cette interprétation. Donc, si on voit plus en détail ce cas, la restitution concerne le secteur S du complexe archéologique de Karnak en l'an 1392 avant Jésus-Christ, sous le règne d'Amenhotep IV ou Akhenaton. L'équipe de Digital Karnak n'a fait que restituer le monument en suivant les suggestions qui avaient été faites dans des publications antérieures concernant ce secteur, sans tenir compte précisément de la particularité des vestiges retrouvés in situ, néanmoins bien représentés dans les sources qu'ils ont consultées. Et qui démontre que les deux blocs ici au coin se touchent par leur arrêt. Donc, au lieu d'utiliser la 3D pour tester les restitutions possibles, ils ont plutôt décidé de suivre aveuglément l'interprétation qui avait été admise dans les publications anciennes. Ils ont présenté ce secteur comme étant une galerie couverte à piliers, avec placé dans l'angle ici un seul et unique pilier au lieu des deux qu'on a vus sur le plan précédent collés ensemble. Ce qui semble logique pour une galerie couverte, en fait, de mettre quelque chose dans l'angle, même si ça amenait d'autres problèmes d'interprétation que je vais laisser de côté, et que cela ne respectait pas aussi ce que prescrivait la source originale, le rapport de fouille. Un examen approfondi des sources et surtout un aller-retour entre ces dernières et le modèle 3D permettent d'écarter cette hypothèse de manière définitive, du moins selon le groupe Aton 3D, et d'en proposer une qui correspondrait plus précisément à la réalité du terrain. Ce secteur de l'édifice se composerait en réalité d'un mur à l'arrière, devant lequel sont placées des piles qui correspondraient à une base sur laquelle étaient placées des statues colossales du roi. Donc, au lieu d'avoir des piles qui supportent une galerie couverte, ce serait des piles pour mettre des statues. On croyait initialement que ces piles recevaient des statues adossées sur leur devant, donc on ne le voit pas dans leur... on le voit pas ici, mais dans leur texte, ils décrivent bien, parce que c'est un modèle simplifié dans Google Earth, mais dans leur texte, ils présentent bien qu'il y avait des statues devant, comme l'interprétation qui en avait été faite il y a une trentaine d'années. Donc, la nouvelle interprétation corrige ces quelques incompatibilités avec la réalité du terrain, notamment pour le secteur dans l'angle, où on voit maintenant les deux blocs qui sont collés par leur arête, et aussi, on retrouvait des inscriptions à l'endos des statues, mais ça n'avait quand même pas empêché les chercheurs de préalablement les coller sur le devant de piliers, parce que le modèle ou le type de construction qui était retrouvé ailleurs à la même époque était une galerie couverte. Donc, ils ont suivi cette interprétation-là. Et la nouvelle, en faisant un aller-retour entre le modèle 3D et les nouvelles hypothèses, etc., ça a permis de présenter de façon plus authentique ce à quoi devait ressembler cette cour. Donc, ce que n'a pas fait Digital Karnak, de vraiment passer des sources et au modèle 3D pour qu'il serve vraiment de catalyseur à la recherche. Ils n'ont fait que reprendre une hypothèse déjà connue pour la modéliser et faire une diffusion, la mettre à disposition du public avec un objectif éducatif. En ce sens, il se situe encore dans ce qu'on pourrait nommer le Virtual Heritage et non le Virtual Archive. Au-delà de ces réflexions méthodologiques sur la représentation des modèles 3D et leur utilité scientifique, il m'apparaît aussi nécessaire, dans la continuité des pratiques en Digital Humanities, d'entreprendre une réflexion plus épistémologique à propos de la place de cette technologie dans la pratique des chercheurs en sciences historiques, sur les différents apports qu'elle rend possible et son impact sur la pratique des chercheurs. Donc, ce qu'il reste surtout à déterminer et à identifier, selon moi, et c'est grosso modo la problématique de ma thèse, c'est de quelle façon il est approprié d'utiliser la 3D et la réalité virtuelle pour faire la recherche. Donc, de quelle façon doit-on l'employer pour provoquer des hypothèses de travail inédites et engendrer ainsi de nouvelles interprétations ou nouvelles pistes de recherche? Et surtout, dans quelle situation est-il pertinent de l'envisager? Donc, à quel moment il devient pertinent de passer de la 2D et de s'investir dans les technologies pour aller en 3D? Un historien américain, Aidan White, en analysant les écrits d'une dizaine de grands historiens ou philosophes de l'histoire au 19e siècle, a démontré que la structure narrative d'un récit influence l'interprétation historique qui est faite des événements. Donc, à partir de la même base de faits, selon qu'un auteur utilise un mode narratif romantique, tragique, comique ou satirique, c'est la classification de l'auteur, l'histoire n'en serait que différente. On peut aussi se poser la même question avec la 3D. Est-ce qu'une méthode particulière de modélisation donne des interprétations différentes? On peut aussi se demander s'il y a une ou plusieurs méthodes particulières qui conviennent le mieux à une situation précise et qui permettraient d'extirper des informations des sources premières autrement impossibles à percevoir. Donc, c'est un ensemble de questions qui m'apparaissent essentielles pour favoriser l'utilisation de la 3D pour générer ultimement un maximum de connaissances. Enfin, et je termine là-dessus, on s'aperçoit de plus en plus que la 3D s'inscrit, ou du moins pourrait s'inscrire, dans un cadre plus large, un mouvement de fond dans les sciences humaines vers une science plus globalisante grâce au croisement de plus en plus fréquent et pertinent des disciplines à cause des technologies. Et la 3D, la réalité virtuelle, me paraissent l'aboutissement des possibilités de ces technologies, là où peut se rejoindre un maximum de disciplines ou de compétences. Non seulement car la 3D permet de faire un lien entre la temporalité, qui est l'élément primordial de l'histoire, et l'espace, qui est traditionnellement laissé de côté, mais aussi grâce aux simulations, elle peut faire appel à une myriade de disciplines. Donc, une utilisation plus intensive et plus complète des technologies 3D ouvrira nécessairement la porte à des changements de relations et de collaboration entre les différentes disciplines, non seulement des sciences historiques, mais aussi de d'autres champs du savoir. Les centres de recherche spécialisés en 3D, comme à Bordeaux, pour le Circus Maximus, font déjà appel à des ingénieurs, des architectes, en plus des archéologues, des historiens et des informaticiens pour modéliser le bâti. Pour les simulations, il n'y a qu'un pas à franchir pour imaginer une collaboration qui inclurait en plus des biologistes, des psychologues ou des neurologistes afin de bénéficier de leur connaissance du comportement humain qui viendrait s'ajouter à celle dont possèdent les archéologues à partir de la culture matérielle ou des historiens à partir des textes. Je crois donc à une approche nouvelle des sciences historiques qui serait plus multi- ou transdisciplinaire, à la fois permise et rendue nécessaire par l'utilisation d'un nouveau moyen d'investigation, la 3D, qui redéfinirait les rapports de force de l'ensemble des disciplines. Donc, est-ce le rêve, la plupart du temps qualifié d'absurde, renouvelé de Marc Bloch et Lucien Febvre pour une histoire totale? Certains pensent que oui. La 3D semble du moins être l'outil tout désigné pour y parvenir. De disposer de la restitution la plus adéquate possible des espaces anciens pour y conduire les expériences voulues en fonction de nos intérêts propres, pour mieux comprendre les sociétés du passé, est certes un rêve accessible qui sera permis au seul prix de l'interdisciplinarité ou trans, c'est selon, dépendant de la définition que vous avez. Voilà. Merci.
Merci Mathieu pour la présentation. C'est fascinant pour les personnes qui n'y sont pas dans ce domaine.
Des questions, des commentaires, des réactions par rapport à cette présentation?
Spontanément, je vais me commettre. François Côté, je travaille à la chaire de l'ordre d'urgent.
Je me demandais, quand je regarde tes hypothèses, tes questions à lesquelles tu essaies de répondre dans ton doctorat,
c'est pas un jugement de valeur, mais est-ce que ça n'a pas déjà été fait? Et si ça n'a pas été déjà fait, ça en est troublant qu'on soit en 2011 à se demander à quoi ça sert, comment bien l'utiliser. Parce que dans le fond, ça fait longtemps que le paradigme est dans le décor. Jusqu'à maintenant, où est-ce qu'on est arrivé sur ces questions-là?
En fait, c'est que généralement, dans chacun des projets qui vont présenter des projets 3D, 90% du temps, c'est sur des aspects technologiques. Et il reste un petit 10% à la fin de l'article qui dit « Ah, ben aussi, on s'est aussi rendu compte de ça. » Donc, oui, tu sais, les exemples que j'ai montrés aussi, tout ça est connu, forcément. Mais il n'y a pas d'étude d'ensemble qui a été faite. En fait, l'idée que j'en ai, c'est de répertorier l'ensemble des projets qui sont publiés dans différentes publications, de faire ressortir tout ce qui est possible de faire pour essayer d'en faire une global picture, un portrait global. Et de voir, en fait, où ça peut nous amener, en fait, plus loin que les petits apports qu'ils nous présentent à chaque fois avec la lumière, avec les avatars, etc. etc. Donc, oui, ça existe, mais tout le monde s'en parle, mais il n'y a pas d'étude qui est faite, il n'y a rien qui le démontre de façon globale, en dehors des considérations technologiques. Il n'y en a pas non plus, il n'y a pas d'étude qui se fait sous l'angle des sciences historiques, c'est toujours en informatique ou quoi que ce soit. Donc, et aussi, l'idée que j'en ai, c'est science historique, c'est pas juste archéologie, c'est pas juste histoire, parce que souvent aussi, c'est compartimenté de cette façon-là. Donc, c'est de tout regrouper ensemble pour voir ce qu'il en sort. Mais sinon, effectivement, ce qui était présenté, c'était comme ça, il n'y a rien de neuf.
Mais ça reste fascinant de voir qu'on n'est pas rendu
Il n'y a pas de réflexion, c'est ça.
C'est mal. Ouais.
Surtout sur l'impact que ça peut avoir sur les disciplines. T'sais, c'est un peu ça. L'idée des apports, c'est vraiment comme la base sur laquelle je m'appuie pour rebondir sur l'impact que ça peut avoir.
Surtout considérant les coûts de production qui sont associés à ça.
Ouais, oui.
Quand tu penses aux milliers de dollars, aux dizaines, aux centaines de milliers de dollars, des fois qu'on investit dans des projets pour justement, en prenant pour acquis que ça va nous être utile.
Ben, en fait, ce qu'ils font quand ils investissent des milliers de dollars, c'est de tester des technologies. Il y a un gros projet européen qui commence, qui s'appelle 3D Icons. Ils viennent d'avoir du financement de 2 500 000 euros. Ben, c'est pour tester des technologies, c'est pour tester la supply chain de toutes les technologies possibles pour en arriver à créer des environnements. Mais moi, j'ai essayé d'intégrer des questions plus historiques, d'ordre scientifique, qui nous intéressent, nous. Puis ça a été écarté, puis ça les intéresse pas. Puis c'est tous les acteurs majeurs en Europe de ça. Mm-hmm. C'est fascinant de voir à quel point c'est vraiment dirigé d'un côté, mais pas de l'autre.
On entre ici, il me semble, ici dans une logique technique-culture, technique-savoir, où on est en phase 2, c'est-à-dire la première est celle de la technologie, de pouvoir tester la technologie, etc. Et maintenant, avec ce qu'on a, de créer en fait un espace commun dans lequel le chercheur peut justement parler de la même chose, en tout cas voir la même chose.
Ouais, exact.
Donc on sort en fait de la sphère purement écrite qui consiste à avoir des textes où chacun est en face du texte, et ça c'est intéressant d'avoir ici la René qui intervient éventuellement, où c'est, on est en face du texte, on est en face de toutes ces recherches, on est en face d'un certain nombre de résultats, et tout d'un coup aujourd'hui on peut éventuellement créer en fait un espace visuel commun à partir duquel on peut se référer au texte, mais en effet, en créer une suite, en fait. Et donc ici, on est vraiment dans l'hypermédia et dans une nouvelle façon, une nouvelle approche de chercher. Et donc, moi qui m'intéresse plutôt à la médiologie, à passer de la graphosphère à la médiosphère à l'hypersphère. Et c'est comme
ça, c'est un peu ça que c'est ce que ça permet, en fait.
C'est exactement comme ça que je vois ton travail, et ça répond un petit peu à la question de... François, en disant, c'est fou qu'on en soit, mais c'est tout récent.
Ça répond à moitié au problème, à la question, je te dirais, parce que dans le fond, c'est pas depuis il y a 2 mois on est capable de créer un espace virtuel 3D commun sur lequel on va collaborer. Je veux dire, je travaillais sur des projets comme ça en 2003. Donc c'est fascinant que en 2003, je veux dire, des gens comme la Virtual Heritage Society qui était liée au VSMN, qui était déjà très avancée là-dedans en 2003, que personne ait réussi à répondre aux questions ou eu envie de répondre à cette question-là. C'est comme si tout le monde avait pitché des demandes de subvention pour avoir des millions, mais personne
ne s'est opposé. Mais il faut aussi distinguer le fait de travailler.
Et là, on est en train de passer à
accueillir quoi
dans ce milieu technique, il me semble, des chercheurs qui, eux, ont une culture.
Ouais, mais le problème, c'est que ces techniciens-là étaient toujours accolés des gens du milieu des sciences humaines. C'est là où ça me trouble, tu vois. C'est, je veux dire, parfois, c'est juste l'ITI, l'Institut des technologies d'information du CNRS. CRC, en anglais. Donc, parfois, c'est juste des techniciens, des gens comme le labo ici, le labo de vision numérique de l'Université Laval, qui travaillent sur leurs affaires, mais souvent, ces gens-là collaborent. Puis, je pense notamment aux gens du CRC Ottawa. Ça serait le fun qu'il y ait des collaborations. Ces gens-là, eux, sont prêts, eux, ont suffisamment de bagages. Je travaille là-dessus depuis les années 70, pour être capable de travailler avec des historiens.
Il y en a eu John Bonnet, qui est un des seuls chercheurs au Canada qui travaille vraiment là-dessus. Enfin, il y en a eu 5-6, mais ça, lui était justement au CNR, mais lui, c'est vrai, son intérêt, c'était plus l'application pédagogique. Mm-hmm. En fait, pas pédagogique, comment, qu'est-ce que ça donne de voir le monde 3D, mais comment on peut enseigner l'histoire en créant des modèles 3D. Mm-hmm. Donc ça, c'est l'aspect qu'ils ont développé dans ce labo-là. Mais ils n'ont pas... Lui a eu sa chaire par la suite, mais ça n'a pas développé pour le reste du CNR. Puis il se concentre beaucoup plus sur les technologies aussi, encore une fois. Et des réflexions dans le...
À ce propos, toi qui n'es pas justement intéressé dans la technologie, comment est-ce que tu gères cette... Parce qu'il y a des ponts à créer avec ces personnes qui créent ces technologies et pour les interpréter. Est-ce que toi, en tant que...
En fait, c'est de participer à leur colloque et de soulever des nouvelles questions, de faire réfléchir sur ce qu'ils font, pourquoi ils font. C'est juste pour avoir
un travail, en fait, sur les mentalités aussi, hein, qu'il y a deux.
Mais c'est... Dans ces réunions-là, il y a trois quarts des gens, d'informaticiens, ouais. Puis l'autre quart, c'est des gens comme moi ou des archéologues. Mais ça se parle, ça collabore, mais ça, il n'y a rien y a rien d'épistémologique qui sort. C'est toujours
trop tôt,
plus.
C'est trop tôt, je pense.
C'est peut-être trop tôt, c'est quand même, comme disait François, c'est surprenant aussi. Mm-hmm. Un bon exemple, justement à Paris l'année passée, au congrès VAST, ce qui est vrai, c'est vraiment, c'est comme CA en fait, c'est plus technologique. Il y a deux Espagnols qui sont venus présenter une charte d'archéologie virtuelle. Je pense que c'est ceux qui donnent le cours d'archéologie virtuelle, qui ont essayé de présenter les enjeux de transparence, d'incertitude, de tout ça. Et la réaction était vraiment fascinante de voir les informaticiens. Ben là, il faut encore qu'on suive d'autres règles. C'est quoi ces choses-là? On assigne nos trucs. Pourquoi faut suivre ça? Puis c'est comme, ben, on a nos façons de faire aussi. Il faut que vous suiviez un peu ce qui nous intéresse si on veut aller un peu plus loin. Mais la première réaction, c'était vraiment de se sentir dépassé par les événements, parce qu'il y avait d'autres choses à prendre en compte.
Ça, c'est la rançon d'un peu.
C'est comme si on est toujours dans une logique de projet, où il y a un projet centré sur un objet, on va chercher les moyens techniques qui sont souvent ce qui nous conduit à mener le projet, parce qu'on a quelque chose à tester, ou une technologie qui paraît intéressante, donc on va l'appliquer, mais comme s'il n'y avait pas de réflexion transversale qui se mette en place. Qu'on voit tranquillement peut-être se réveiller. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est l'exemple de l'usine de Renault, où on n'est pas dans le créneau habituel de l'élément patrimonial suprême qu'on veut restituer, mais plutôt de se dire peut-être que ça pourrait être un outil pour aller du côté d'une étude sociologique, à la limite, quelles sont les conditions de travail. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on partait de photos, on modélisait 3D à partir de photos?
De photos, dessins et un peu de texte.
Donc, ce qui vient élargir le champ et qui oblige justement à poser ces questions.
Là, on rentre vraiment dans la micro-histoire industrielle qui est vraiment, comme tu dis...
Quoique non, ça éveille aussi la différence entre archaeological...
Virtual
Archaeology et Virtual Heritage, parce que là, on a un patrimoine industriel. Et là, on commence à, il me semble, à rassembler des notions et à les conceptualiser, à les solidifier pour justement créer cet espace commun dont je parlais.
Puis encore, des projets qui vont avoir une question de recherche au début de leur modélisation, qui dit, ben, on va modéliser pour telle raison. J'ai parcouru à peu près le trois quarts de mon corpus, depuis 2000 à 2011, quatre grands congrès qui ont eu à chaque année. Je suis rendu à 50 projets. Il n'y en a pas beaucoup, sur, je sais pas, 500.
Vous disiez, c'est tôt. C'est 2003, c'est hier.
Oui, c'est tôt et c'est tard, dans la mesure où les technologies...
Oui, mais c'est justement, c'est que les technologies avancent tellement vite que les questions, c'est toujours, ben, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il n'y a jamais un arrêt, puis ben, c'est vraiment dans cette idée-là que... Ça, c'est vraiment un bulldozer.
Je soulèverais la question de valeur aussi, d'idéologie qui se confrontent, pas juste en historique, moi je viens en muséologie, quand on parle, même quand j'explique mon sujet de thèse, même en entrevue, ben, les objets, eux autres, qu'est-ce qu'on fait et tout, donc il y a tout de suite une menace, il y a certains chercheurs qui se sentent menacés, ils découvrent de la culture matérielle, des historiens, c'est supposé être basé sur des écrits. Là, on commence dans le transdisciplinaire, là. Comment composer la transdisciplinarité, c'est vraiment nous, mais certains chercheurs, en disant que ça, c'est l'illustration, c'est pas la recherche, c'est l'illustration.
Ouais, exactement. Mm-hmm. Et chacun va dire, l'historien va dire, ça, c'est de l'histoire, ça, c'est de l'archéologie. Chacun reste ancré.
C'est
ça. J'en ai l'exemple à chaque fois que je présente, l'archéologue réagit comme l'archéologue, l'historien.
Jusqu'à quel point il peut pas avoir une distorsion avec tous ces champs-là qui sont mis ensemble. Le résultat final, jusqu'à quel point on peut affirmer qu'il a été basé sur la méthode scientifique. Donc, quand on prend toutes les sources au départ, ils ont peut-être été toutes validées. Le résultat final, jusqu'à quel point on peut le considérer comme source peut-être pour...
Ça reste à être revalidé à chaque fois.
Oui, c'est ça.
Donc, je l'ai présenté comme ça, mais faut effectivement, il y a toujours une étape de revalidation. Si on veut aller plus loin, c'est jamais coulé dans le béton. même s'il y a un amalgame de plein de choses qu'on faisait pas.
Mais ça doit amener quand même une certaine distorsion.
Ça amène une distorsion à quel niveau?
Ben justement, quand il y a des conflits, si on veut, entre certaines disciplines, donc il y a un certain compromis qui doit être fait, il y a des choix qui doivent être présentés avec des alternatives.
Multiplier les approches.
Oui, exactement.
C'est typique, ça prend un médiateur, on est en pleine médiation. justement, c'est l'espace de rencontre dont on parlait, et c'est ça la transdisciplinarité, c'est la médiation même de ces disciplines en silo, comme on dit. Mais elles creusent en profondeur, donc elles ont vraiment leur rôle à jouer, et ce genre d'espace-là, vraiment transversal, travaillant à l'horizon. Et le point de rencontre est justement entre ce travail vertical des disciplines et ce travail horizontal des disciplines.
On n'a pas besoin de la réalité virtuelle pour ça, en fait, pour créer les conflits, parce que un des super exemples...
Non, justement, on essaie de les résoudre.
Oui, mais un des super exemples...
Ils sont créés, les conflits.
Une reconstitution en dur d'un bateau, d'une trière, d'un bateau grec de guerre, qui a été fait en vrai, et qui réunissait tous les scientifiques, comme je l'ai montré, pour les projets virtuels. Et ça a choqué à peu près tout le monde, autant les archéologues que les historiens. C'était pas l'idée du virtuel, c'était l'idée de tout mettre ensemble, puis de montrer quelque chose qui n'existe plus. Ça choquait tout le monde, ça choquait les archéologues. Ben là, ça donne rien de faire ça, ça vaut rien. Même s'il y avait même des physiothérapeutes et qui pouvaient évaluer la position de ceux qui ramaient, etc. Ils sont allés super loin, mais ça a vraiment bloqué au niveau archéologique peu, parce que c'était une approche nouvelle, puis ça pouvait confronter des visions que d'autres avaient. Etc. C'est même pas une question de technologie.
Et des résultats, vous savez.
Et des résultats.
Ça a été ça avec la soyenne ici, si tu veux, du concret, du tout.
Ah,
okay. Bien, merci à Mathieu d'avoir inauguré le café. J'espère que la formule sera intéressante et se poursuivra. Le principe est que on a voulu, un peu à l'impulsion de Mathieu et Tito, lancer un lieu de rencontre des gens qui travaillent sur le numérique. Et donc, on veut essayer de formaliser des présentations comme celle-là une fois par mois ou à peu près, et intercaler des rencontres, des séances ouvertes, où on est vraiment dans l'idée du café, les gens viennent, discutent, commentent l'actualité, ou arrivent avec un problème technique, ou apportent à peu près ce qu'ils veulent pour discuter librement. On se met une case horaire d'une heure, donc de 11h à midi. S'il y a des gens, on discute en groupe, en sous-groupe, peu importe comme ça convient, et peut-être comme ça, justement, aider à tisser un peu cette communauté qui est là, qui est présente, où les gens ont dit oui, certains sont venus aujourd'hui, plusieurs ne sont pas venus pour des contraintes X, Y, mais on voit bien qu'il y a un intérêt qui est là sous-jacent et qu'il faut essayer de cultiver. Donc, je vais continuer à faire la publicité pour l'événement, rappeler l'existence de la chose par différents moyens, par un mailing list, entre autres. Vous serez informés. Quand il y a des sujets qui vous plaisent, des sujets que vous voulez soumettre, n'hésitez pas à faire signe, et on en fera un espace qui sera utile et intéressant pour tous ceux que ça intéresse dans le champ des arts, des lettres et des sciences humaines.